Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Sa barbichette, taillée façon duc de Guise, n'empêche pas un physique qui semble à jamais modelé dans l'argile de l'enfance. Lui, l'amoureux de Paris, aurait fait un formidable Gavroche. Et oui, c'est Laurent Deutsch qui va nous entraîner cet après-midi au fil de ses passions et Dieu sait si son appétit de gai savoir est grand. Jeudi prochain, en compagnie de Stéphane Bern, il nous attend sur France 2 à 21h pour un nouveau numéro fascinant de Suivez le Guide qui fera renaître devant nos yeux le Paris de la Révolution française.
Europe 1.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Isabelle.
Je suis ravie de vous accueillir.
Ben c'est très gentil à vous, moi aussi je suis très content d'être là.
Laurent Deutsch, pourquoi n'êtes-vous pas devenu historien ou prof d'histoire ?
Eh bien parce que après le baccalauréat, je me suis orienté vers des études de philosophie pour suivre mon ami. Je suis un petit peu comme un chien, je suis très fidèle.
Oui.
Et j'ai suivi un copain. J'avais le choix entre histoire et philo.
Et puis vous avez préféré l'amitié en fait.
J'ai préféré l'amitié et la philo parce que quand on a 17 ans, on se pose beaucoup de questions existentialistes. Vous savez pourquoi on est là, quel va être le sens de notre vie, du monde, etc. Et évidemment, la philosophie nous amène vers ce genre de problématiques. Alors que l'histoire, j'en faisais déjà mon miel par mes lectures et par mes voyages littéraires. Donc la philosophie a peut-être plus besoin d'être accompagné par un professeur que un voyage dans l'histoire, surtout quand elle est captivante et divertissante avec des auteurs comme Balzac ou Dumas ou Hugo avant de s'attaquer à Brodel ou Ferry.
Mais votre cursus, il était double, hein, parce que c'était pas seulement la philo, vous avez fait également à la Sorbonne langue O.
Et, les langues
paraît,
O, ouais. Les langues orientales.
Vous avez tenté, Laurent Deutsch, le concours d'inspecteur pour Interpol en Europe centrale, puisque vous êtes d'origine hongroise. En fait, vous avez une âme d'enquêteur.
Oui, mais ma passion pour l'histoire est liée, puisque le mot historia vient du grec et d'Hérodote, qui veut dire histoire. C'est l'enquête. Historia, c'est l'enquête, l'enquêteur. Donc, tout est lié.
Mais vous n'êtes pas devenu inspecteur de police.
Eh ben non, parce que j'ai foiré les essais. j'ai raté le casting. Ils m'ont pas pris. Il y a un complot.
Pour quelle raison, en fait ?
Mais j'ai raté le. Alors, il y avait plusieurs épreuves, des mathématiques. Donc là, à mon avis, ça n'a pas dû être génial. Mais surtout, il y avait une épreuve de philosophie, de dissertation. Alors que j'ai une licence de philosophie, eh bien, j'ai eu 8. Alors, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé.
En tout cas, rechercher les grands criminels en travaillant dans la police scientifique, ça, c'était votre vocation première ?
Oui, parce qu'à 18 ans, je voulais quitter la France pour habiter en Hongrie. Je voulais retourner un peu là-bas. Et il fallait un métier. Et ma passerelle était de me servir donc de mes appuis français, de fait de maîtriser la langue française et d'y avoir vécu, pour être un peu un pied dans chaque pays, quoi. Mon pied droit en Hongrie et le pied gauche en France.
Mais alors, l'histoire dans tout ça, parce qu'effectivement, vous venez de nous le dire, vous avez une licence de philo, pas une licence d'histoire. Alors, comment la passion de l'histoire a-t-elle cheminé en vous au point de faire paraître, il y a 10 ans de cela, et alors que vous étiez installé dans une très jolie carrière d'acteur, votre premier ouvrage sur l'histoire de France, Au rythme du métro parisien, Métronome, vendu d'ailleurs à plus de 2 millions d'exemplaires, qui pour le grand public vous a presque donné vos galons d'historien. C'est arrivé comment ça ?
C'est que je suis passionné par l'histoire depuis tout petit. Je l'ai découvert avec Eddie Mitchell, avec La dernière séance.
Et alors, l'histoire, c'est avant tout des belles... J'aurais cru que c'était plutôt l'histoire de Hollywood.
Non, mais oui, c'est ce que a répondu Eddie Mitchell quand je lui en avais parlé. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et il me disait, mais moi ce qui me plaisait c'était les belles voitures, John Wayne avec les pétards et les pépés avec des décolletés scintillants. Et je lui dis, non, moi c'était les histoires quoi que vous racontiez. Et c'est vrai que les Anglais ont deux mots pour dire histoire. Ils ont history avec un grand H et story. Et nous, en France, on n'a que le mot histoire, donc avec un grand H ou un petit H, mais il n'y a qu'un seul mot pour histoire. Et c'est aussi deux belles histoires. Alors après, évidemment, il faut chercher la vérité scientifique, donc le côté vraiment irréfutable et science dure, hein, au même titre que les mathématiques ou la physique. Mais n'oublions pas qu'à la base, c'est avant tout des belles histoires qui nous font rêver, quoi. C'est des histoires de chevaliers. Et quand on a 12 ans, ça m'a passionné et depuis, ça m'a pu quitter.
Mais vous êtes aussi curieux de l'histoire de votre pays d'origine, la Hongrie, que de celle de la France ?
Ben non, je préfère l'histoire de France puisque j'y habite. Vous savez, pour moi, l'histoire, c'est pas un voyage dans le passé, c'est pour mieux décrypter et comprendre mon présent, c'est les racines de notre présent.
Et puis aimer tout l'histoire, est tissé, en fait.
Oui, c'est un maillage. Voilà. Et quand on entend dire, oh, les historiens, là, ils sont nostalgiques et c'était le mieux avant, là, ils sont dans l'espèce de retour dans le passé, c'est pas vrai du tout. On aime l'histoire parce qu'on a envie de mieux comprendre et mieux savourer notre présent. Grâce à l'histoire, eh bien, on a l'impression de vivre dans une réalité augmentée. Elle est améliorée, elle est réenchantée.
Réalité augmentée, justement, comme la post-prod de l'émission qu'on va pouvoir découvrir sur France 2 jeudi prochain. Alors, ce qui est formidable avec vos vies parallèles, Laurent Deutsch, c'est que l'histoire, vous la contez, mais aussi vous l'incarnez. Vous avez été Mozart au théâtre, dans la pièce Amadeus. Vous avez été Jean-Paul Sartre à la télé pour Les Amants du Flore. Jean de La Fontaine au cinéma pour le biopic Jean de La Fontaine, Le Défi. Donc, les rôles historiques, vous les abordez, j'imagine, avec une révérence particulière. Vous, l'historien amateur.
Ah bah oui, c'est totalement passionnant parce que j'ai joué aussi, je me souviens, Nicolas Fouquet, et j'ai eu la chance par ces deux films de revivre deux fois la disgrâce, vous savez, cette fameuse soirée de 1661
oui.
où Louis XIV ne s'est plus senti roi en France à cause de la magnificence
voilà.
et de la grande soirée sublime à Vaux-le-Vicomte qu'avait tenu Nicolas Fouquet en l'honneur du roi. Je l'ai vécu deux fois, donc je l'ai vécu plus que Nicolas Fouquet lui-même, quoi. Donc c'est extraordinaire, ça me donne des ailes.
Alors pour le prochain numéro de Laissez-vous guider, donc avec Stéphane Bern sur France 2 le 2 mai, vous allez nous faire revivre les grandes heures de la Révolution française en faisant ressurgir, pas vous, la post-prod, mais je dois dire que vous y contribuez grandement, en 3D dans le Paris d'aujourd'hui, les édifices disparus, donc qui ont été les témoins de tant d'événements hallucinants. Je pose la question autant à l'acteur qu'à l'historien autodidacte. En fait, quel personnage de cette terrible et passionnante période aimeriez-vous incarner ?
Les personnages de la Révolution sont tous des géants. C'est des géants, donc ils sont tous assez passionnants, ils sont tous sublimes, ils ont une dimension héroïque incroyable, ils sont allés au bout de leurs idées et la plupart d'entre eux ont fini sur l'échafaud.
Ouais.
Donc moi, vous me demandez d'incarner Robespierre, j'en serais très honoré, Collot d'Herbois, Danton, Louis XVI, Charlotte Corday, je me maquillerais, il n'y a pas de problème. Moi, je les joue tous, Thérouanne de Méricourt, Olympe de Gouges, ils sont tous fascinants. Mirabeau aussi avait une subtilité hallucinante, Talleyrand était d'une duplicité incroyable, Fouché, il avait une puissance. Bref, dans cette période-là, on va croiser des personnages immenses. Tous ont été immenses. Et c'est pas un hasard si la Révolution française souvent concentre toutes les passions, mais aussi tous les ouvrages. Il y a une littérature incroyable qui a été faite sur la Révolution, tant cette période est bouillante, frénétique, enfiévrée et fondatrice pour notre histoire, puisqu'elle a enfanté notre République.
Europe. Ah, vous l'avez compris, passion, c'est le maître mot de cette balade, cet après-midi, en compagnie de Laurent Deutsch, qu'on retrouve tout de suite après une très courte pause.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité Laurent Deutsch à l'occasion d'une émission de télé.
Laurent Deutsch, pour ce nouveau numéro de Laissez-vous guider, que vous présentez avec Stéphane Bern le jeudi 2 mai sur France 2 à 21h, la production n'a pas lésiné. Hein. Le Paris de la Révolution française, en fait, se superpose en réalité augmentée au Paris de 2019 dans lequel vous déambulez, puisque tous les édifices qui ont disparu depuis la Révolution sortent de terre fabuleusement reconstitués en 3D. Mais alors, j'aimerais savoir comment s'est organisé en fait le tournage. Quand vous tournez, la post-prod n'est pas encore faite. Donc Stéphane Bern et vous... vous réagissez devant des bâtiments invisibles, comme les acteurs à Hollywood qui jouent la comédie sur des fonds verts.
Exactement.
C'est comme ça que ça s'est passé.
Ouais, c'est ça, sauf qu'on n'est pas sur des fonds verts, c'est pas de l'image de synthèse, hein, c'est pas de l'incrustation, c'est vraiment, on est sur place, in situ, et ça se crée sous nos yeux, disons que c'est par le truchement quand même de studio, etc. Mais sur place, il y a des gens qui sont là pour nous montrer la modélisation, à quoi ça va ressembler, donc on n'a que à se la projeter un peu dans nos têtes, mais c'est comme si on la voyait, quoi, puisqu'il y a des écrans qui déjà nous la suggère alors qu'on est sur une place vide et que quand on est devant par exemple le donjon du temple, on voit rien, mais il y a déjà des écrans, des moniteurs qui nous montrent les dimensions que ça va avoir, l'empiètement que ça va avoir sur le tissu urbain et où c'était précisément. Et pour moi qui suis un passionné d'histoire, donc un chasseur de vieilles pierres, un fossoyeur de souvenirs, c'est un sacré cadeau parce que tout d'un coup je les ai vus réapparaître et des monuments qui m'ont fasciné comme par exemple donc, le donjon du temple ou la Bastille, eh bien on les verra précisément quoi, en place dans le Paris de 2018. Quoi. Donc il va y avoir des bus qui vont tourner autour, c'est hallucinant.
Alors justement, parlons de la Bastille. Quand l'émission démarre, Laurent Deutsch, vous êtes tous les deux avec Stéphane Bern au sommet de l'étroite colonne de la place de la Bastille, donc à 51 mètres de hauteur en plein ciel. Mmh. Là, c'est pas de la 3D.
Non, et là,
on ne vous sent pas très rassuré d'ailleurs.
Non, j'ai le vertige depuis quelques années. Je l'ai chopé à la cathédrale de Strasbourg, là, sur la terrasse, là, qui a 70 mètres de haut. Je devais faire une chronique pour une émission et j'ai eu le vertige. Tout d'un coup, ça m'était jamais arrivé. J'avais pas le vertige avant. Il y a peut-être eu un dérèglement dans une oreille interne, j'en sais rien. Et depuis, j'ai le vertige. Et j'avoue que j'étais assez mal à l'aise alors que Stéphane, lui, était formidable. C'est tout juste s'il allait pas me porter pour m'aider à descendre. Non, il était beaucoup plus solide que moi sur ce plan.
Mais alors, de là-haut, c'est-à-dire au sommet donc, de la colonne de la Bastille, est-ce qu'on voit sur le sol de Paris les traces des fondations de la Bastille. On les aperçoit vraiment.
Il y a un marquage au sol qui nous rappelle son positionnement exact et c'est évidemment sur lequel on s'est appuyé pour la faire rejaillir du passé.
Elle est magnifique, la vue sur Paris qu'on a depuis cette colonne où ne grimpe jamais personne.
Mais maintenant, c'est rendu accessible. La mairie de Paris fait en sorte que ces lieux un peu oubliés, un peu méconnus, un peu perdus, retrouvent un lien avec la population. Et donc, il suffit de demander, d'essayer de se renseigner. Et de plus en plus de portes s'ouvrent. Ça s'ouvre assez facilement maintenant. La même chose a été faite il y a longtemps avec un monsieur qui s'appelait Michel Rivière pour la Tour Saint-Jacques. Il a été pionnier en la matière, puisqu'elle a longtemps été fermée, inaccessible au public. Et bien, il l'a rendue ouverte. On peut l'ouvrir à certaines occasions. Il suffit de demander, de se renseigner. Il y a des visites qui sont organisées. Et de plus en plus de monuments sont réappropriés par les Parisiens grâce à des initiatives de personnes hyper amoureuses de Paris et qui ne veulent pas que ça tombe dans l'oubli. Parce que le meilleur moyen de faire disparaître les souvenirs de notre passé, c'est de ne plus être connecté avec eux, quoi. Donc, qu'on n'en soit pas les gardiens collectifs de ce sanctuaire. Et là, donc, ça les sauve de l'oubli et ça leur assure une longévité qui était menacée.
Alors, la prise de la Bastille étant l'événement fondateur de la Révolution française, le premier édifice qui va surgir de terre en 3D, c'est bien sûr la Bastille, qui était, j'ai appris ça en pouvant visionner de façon un petit peu privilégiée donc cette émission avant qu'elle ne soit diffusée jeudi sur la 2. La Bastille, en fait, elle était haute comme un immeuble de 8 étages et on y pénétrait par un pont-levis. Ça, c'est tout à fait étonnant. Mais qu'est-ce qui vous fascine le plus dans l'histoire de cette forteresse où tout de même ont été détenus aussi bien Voltaire que le Masque de Fer et forteresse qui a été démoli après sa prise par un très jeune entrepreneur qui, en fait, a créé les premiers produits dérivés de l'histoire et qui s'est enrichi en revendant les pierres de cette fameuse forteresse. C'est absolument incroyable.
Ah ouais, comme avec le mur de Berlin, là, on fait des affaires avec des bouts de mur. Il a vendu des morceaux de la Bastille.
En 1789.
Ouais, le citoyen palois. Il était malin, celui-là, le premier bourgeois de la Révolution. Il s'est fait du pognon.
Mais exactement. Mais qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans l'histoire de cette forteresse, donc ?
Ce qui m'a plu au départ dans la forteresse, c'est qu'il faut savoir qu'elle était davantage un monument dressé contre Paris que contre l'extérieur. C'est une forteresse, hein, donc on est sur une enceinte militaire de Paris, avec d'un côté à l'est la Bastille et à l'ouest le Louvre. C'est vraiment un verrou pour protéger la ville. Mais elle était positionnée de telle manière qu'en fait, elle pouvait davantage se prémunir et se protéger du peuple à l'intérieur de la ville que de l'extérieur. Donc c'est un monument un peu double, en fait, la Bastille. Oui. Elle protégeait les Parisiens, mais en même temps, les menaçait. C'est pour ça que c'était vraiment le symbole de l'arbitraire. Parce qu'après, c'était une prison réservée aux aristocrates, aux gens qui avaient maille à partir avec le roi.
On y entrait par lettre de cachet.
Oui,
il paraît qu'une fois sur deux, on ignorait d'ailleurs pour quelle raison. On avait des plus au roi.
Ah oui,
ça n'était pas du tout signifié.
Ah non, c'était une lettre de cachet du roi qui vous embastillait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était souvent, c'était pas le petit peuple, quoi. Le petit peuple n'était pas concerné par la Bastille. Il y avait d'autres prisons pour eux. La Bastille, c'était réservé à des gens comme, par exemple, le marquis de Sade ou des gens comme ça.
Ouais.
Mais elle était un symbole d'arbitraire et surtout, comme je l'ai dit, elle était la menace davantage contre le peuple parisien, contre les Français, qu'une protection face à l'extérieur. C'est pour ça qu'elle a vraiment phagocyté et centralisé toutes les haines du privilège et de l'absolutisme royal.
Alors, dans cette émission, l'effroyable tour du temple est également reconstitué en 3D, ainsi que la tristement célèbre guillotine qui trônait place de la Concorde.
Ah, on va finir sur l'échafaud avec Stéphane.
Alors, la toute première guillotine, elle a fonctionné en fait le 25 avril 1792, actionnée par le bourreau en titre Charles Sanson, qui a guillotiné plus de 2800 personnes, dont Robespierre, Danton, Marie-Antoinette et puis son petit-fils, puisque à l'époque c'était une charge, on était bourreau de père en fils. Son petit-fils, lui, coupera la tête le 21 janvier 1793 de Louis XVI.
Ouais, voilà, lui c'est Charles-Henri.
Voilà. Pendant que 25 000 soldats, paraît-il, étaient présents sur la place pour encadrer le peuple qui se pressait.
Mais c'est pour ça que ce moment est palpitant.
Mais justement, il y a seulement deux siècles, Laurent Deutsch, c'est-à-dire seulement un peu plus de deux fois la vie d'un centenaire. C'était juste avant-hier.
Et comme quoi, ce sont des choses fragiles, ce sont des choses récentes. Les privilèges qu'on a, cette sensation d'habiter dans un pays où la liberté de parole est respectée, est préservée, où on a la sensation qu'on... Quand même, aujourd'hui, on est dans un monde apaisé, même si les choses se contractent partout autour de nous. C'était pire il y a deux siècles, et c'était hier. C'était hier.
Mais
et...
alors, cette terreur, elle inspire quoi aux monarchistes que vous êtes ?
Sympathisant. Je suis pas
sympathisant, on va dire, comme Thierry Ardisson.
Ouais, mais je suis pas monarchiste, je suis démocrate. Et aujourd'hui, vous regardez n'importe quelle enquête d'opinion, on vous explique que là où la démocratie, donc c'est-à-dire la volonté populaire, s'exprime le mieux, c'est dans des pays du Nord comme la Norvège, la Suède, le Danemark, la Hollande, l'Angleterre, et ce sont systématiquement des monarchies parlementaires. Donc je me dis, tiens, comme système politique et non pas comme parti politique, comme système de gouvernement, oui, j'avoue que peut-être j'ai des sympathies pour une monarchie parlementaire,
alors,
puisque c'est là où la démocratie est le mieux entendue. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les enquêtes en Europe.
C'est un constat, mais alors, selon vous, on va creuser un petit peu, dans le monde actuel, quels sont vraiment
est-ce
les
que le
avantages
peuple est entendu dans notre république
d'une monarchie parlementaire par rapport à une république. Par exemple, de quoi la couronne britannique protège-t-elle l'Angleterre en 2019 ?
En fait, l'avantage d'un monarque dans une monarchie parlementaire, c'est qu'il n'a aucun pouvoir, que de représentation. Et ce que disait Dumézil, et qui est très juste, ça nous garantit et nous préserve de toutes les conjonctures, des épiphénomènes qui peuvent tout d'un coup nous faire choisir la brutalité, la peur, qui peuvent nous faire choisir le pire, des populistes, des gens totalitaires, des dictateurs, j'en sais rien, des gens qui tout d'un coup vont prendre le destin d'un pays en main et pas forcément en faire quelque chose de bien, où le pouvoir risque d'être réuni dans les mains d'un seul homme. Et quand un monarque occupe la fonction suprême sans aucun pouvoir, eh bien c'est la garantie de se prémunir de tous les tyrans, de toutes les tyrannies,
c'est
de toutes les totalitarismes.
Étonnant
de tous les totalitarismes.
Parce que c'est comme un pouvoir en creux.
Oui, exactement. C'est dans les anciennes sociétés grégaires, quand j'ai fait philo, j'avais étudié ça aussi, les vieux, les anciens ont donné le pouvoir à celui qui peut le moins se déplacer et qui a le moins de force. Quoi. Le chaman, on est tranquille. C'est le plus vieux, celui qui ne saura pas porter une épée.
Donc le roi, c'est un peu ça.
Il a un pouvoir de représentation. Et par contre, le pouvoir législatif, tous les corps régaliens sont décidés de manière souveraine par le peuple.
On fait une pause. On retrouve tout de suite Laurent Deutsch.
Il est 15h17, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit avec vous Isabelle Morizet et votre invité, l'acteur Laurent Deutsch.
Acteur ou historien amateur ? Ah, l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Je reçois le passionnant Laurent Deutsch qui, après Métronome et Hexagone, consacre à la langue française un livre qui se lit absolument comme un roman et qu'on évoquera tout à l'heure, romanesque, qui paraît chez Michel Lafon. Laurent Deutsch, votre père est hongrois, il est arrivé en France après les émeutes en Hongrie en 1956, il avait 11 ans.
Oui, il a fui le communisme.
Voilà. Il vous a beaucoup parlé du pays de son enfance, ou au contraire, la Hongrie a été occultée au sein de la famille Deutsch ?
Non, ça a été occulté.
C'est vrai ?
Ouais, il n'y était pas tellement attaché, il a voulu faire table rase de tout ça, et il était très reconnaissant à la France de l'avoir accueilli, il a pu passer des diplômes de droit, il est devenu huissier de justice.
Huissier de justice.
Et donc il n'a jamais prié ou regretté une mère patrie, non, il s'est totalement fondu... À part quelques mots qu'il a du mal à prononcer, il est plus français que vous et moi.
En tout cas, votre père, il vous a donné pour prénom Laurent, avec un A surmonté d'un accent, ce qu'on pourrait imaginer correspondre à notre prénom français Laurent, mais pas du tout. Il paraît qu'en hongrois, ça se rapproche en fait de Philippe.
Ouais.
C'est ça, Laurent veut dire Philippe.
C'est un faux ami, ouais. Laurent, c'est un faux ami. Laurent en hongrois, ça se dit Lorinz. C'est celui qui, donc, c'est le mot latin, c'est donc le Saint Laurent, là, qui s'est fait martyriser sur un grill, et qui donc veut dire couronné de laurier, Laurentis.
Oui.
Eh bien, en hongrois, ça se dit Lorinz, c'est Lars, Lorenz. Et Laurent, c'est un prénom qui est pas chrétien, c'est pas un prénom catholique, c'est donc un prénom qui date de l'arrivée des Hongrois dans la plaine du Danube au Xe siècle, et ça veut dire celui qui aime les chevaux, c'est celui qui s'occupe des chevaux, c'est le valet en fait. Parce que l'eau en hongrois veut dire cheval, et Rant, c'est celui qui les entretient. Donc c'est clairement la Philippus, quoi, c'est Philippe. C'est...
Bah alors, je ne sais pas si vous aimiez les chevaux adolescents, mais en tout cas, vous aimiez le foot, et votre petit gabarit vous a pas empêché, Laurent Deutsch, de mettre les crampons à l'âge de 12 ans pour entrer au centre de formation de Nantes. Vous étiez en sport-études et, ouais. Et vous imaginiez devenir une star du ballon rond ?
Ah oui, complètement. Ah oui, moi j'étais sûr de réussir, j'étais très fort.
Et alors pourquoi ?
J'ai des vidéos, j'ai des cassettes, j'ai des
vieilles VHS. Votre histoire s'est écrite autrement ?
Parce qu'à 15 ans, on m'a demandé de prendre des hormones de croissance parce que j'étais trop petit.
Non.
Et si, et en 88, pile avec le scandale du sang contaminé des hormones de croissance. Et
dans les centres de formation,
oui.
On demandait aux
non,
ados...
Non, on ne demandait pas. On disait, on vous met dehors parce que musculairement, vous ne pouvez plus suivre le travail. J'avais une musculature prépubère et donc ça ne servait à rien de me développer physiquement puisque la puberté n'était pas là. Donc les muscles n'étaient pas prêts, le corps n'était pas prêt pour encaisser la surcharge musculaire de travail. Donc on me disait, soit on vous met dehors... Soit vous allez voir un médecin et il y a des moyens de vous déclencher la puberté avec des hormones de croissance.
Ça rassurez-nous, se passe... on ne tient plus jamais ce genre de propos.
J'en sais rien. Mais je sais que par exemple Lionel Messi l'a fait, lui, il les a pris les hormones de croissance. Et il y a plein de joueurs de foot qui ont pris les hormones de croissance. Et d'ailleurs, c'était quelque chose pour les enfants qui n'arrivaient pas à avoir leur puberté. Moi, j'ai eu ma puberté à 17 ans. C'est vrai que ça devient dur, surtout vis-à-vis des filles, quoi. Enfin, vous avez pas un poil sur le caillou, quoi. C'est compliqué, quoi, pour nouer des contacts.
Alors, vous nous parlez de vos 17 ans, vous allez un peu vite en besogne. Je voudrais savoir pourquoi, à l'âge de 15 ans, vous avez quitté à la fois vos parents et la province pour venir vivre à Paris.
Parce que mon père a eu un accident de voiture très grave. Et voilà, il était dans le coma. Et donc, ma mère a été un petit peu. Elle avait du mal à tout mener de front. Ma sœur était déjà parti chez mes grands-parents à Bobigny. Et,
bah, donc vous l'avez rejoint.
Ouais, j'y suis à 15 ans en seconde. Ça correspondait en plus avec la fin du foot. Je suis rentré à Sablé, j'avais plus rien à faire dans ma ville où en plus j'avais la sensation d'être honteux. Je suis parti avec plein d'espoir et c'était des espoirs déçus puisque ça a été un échec. Donc il fallait écrire une nouvelle page. Et bah, ça a été Paris.
Et votre père est sorti de ce coma.
Et mon père est sorti de ce coma avec des cheveux blancs. Il a perdu. Les cheveux ont blanchi en une nuit. Et il a changé de caractère. Il était très sévère, très impavide. très austère. C'était quelqu'un qui nous aimait, mais qui n'était pas le plus drôle de la famille, de la
bande.
Il
est devenu très affectueux.
Il est devenu beaucoup plus lunaire, ouais. Il est devenu beaucoup plus lunaire. C'était amusant comment l'accident a réveillé en lui un côté plus jeune, plus immature, ouais. Plus enfantin. Peut-être ouais. Qu'il a lâché aussi parce qu'il avait tellement une revanche à prendre sur la vie.
Voilà. Que... Le lâcher-prise ouais. Soudain a façonné autrement son tempérament. Donc, vous êtes un Parisien d'adoption, Laurent Deutsch, qui depuis l'âge de 15 ans sillonne Paname. Et il paraît que c'est votre grand-père, garagiste dans le 5e arrondissement, qui vous a livré les premiers secrets de la capitale.
Ouais.
C'est lui qui vous a appris à aimer Paris.
Ouais. Ouais, donc pour aller de Bobigny à son garage, il était au niveau du Panthéon, et ben on prenait sa voiture et il me racontait plein d'anecdotes, plein de souvenirs. Il essayait surtout de me montrer comment avoir le moins de feux rouges possible, tous les itinéraires bis. Vous savez, tous ces itinéraires de circulation qui aujourd'hui n'existent plus
mais
dans
oui.
Paris. On est tous contraints de prendre un seul et même axe.
On est coincés.
Et on est coincés. À l'époque de mon grand-père, ça se passait pas comme ça. Quoi. Il y avait des tas de rues et on s'arrêtait presque jamais. Le but du jeu, c'était de pas s'arrêter. C'est drôle.
Insensé. Bon, alors, il y a eu bien sûr ce grand-père, initiateur, mais il y a eu aussi beaucoup de lectures. Balzac, Zola, Dumas, Victor Hugo.
Su aussi. Le premier, c'est Eugène Su.
Ah oui, c'est
les Mystères
Su.
De Paris. Ouais, les Mystères de
ah
Paris.
Oui.
Ça a commencé avec les Mystères de Paris. Puis après, ça a été évidemment Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Ça a été Les Misérables. Ça a été La Curée de Zola. Ça a été Madame Bovary, Belle Amie, L'Éducation sentimentale de Flaubert. Tout ce qui pouvait avoir un rapport avec Paris, essentiellement. Donc, la grande littérature romantique et romanesque du 19e siècle,
ouais.
Puis le naturalisme de Zola, etc. Tout ce qui pouvait se passer à Paris, j'en faisais mon miel pour faire des balades derrière, parce que j'avais l'impression d'être avec toutes ces belles personnes, avec tous ces héros de mon passé, Julien Sorel, les gens comme ça. Voilà, j'avais la sensation d'être avec eux et ça augmentait mon quotidien et mon ordinaire. Quoi.
Bah, bien sûr.
La rue ne ressemblait plus à une rue qui me conduisait chez le boulanger ou à l'école. Ça me conduisait beaucoup plus loin.
Laurent Deutsch, vous seriez sans doute devenu historien. On le comprend, on l'entend bien. Si par amitié, vous n'aviez pas suivi un copain qui faisait philo à la Sorbonne. Mais comment le théâtre est-il entré dans votre vie ?
Ah bah c'est venu à 15 ans. En arrivant à Paris, il fallait que je m'occupe à Bobigny. Et j'ai suivi une fille, en fait, qui avait peur de traverser. J'habitais dans une cité qui s'appelait L'Abreuvoir. C'était une cité, voilà, soi-disant malfamée. Enfin, il ne s'est jamais rien passé pour moi. Bref, il n'y a que quand on n'y habite pas qu'on croit ça dangereux. Et elle me disait, comme elle était un peu angoissée, elle me disait, est-ce que tu peux pas m'aider à traverser, m'accompagner ? Donc je l'ai accompagnée. Et puis ça m'a bien plu parce qu'il y a plus de
vestiaires. Parce qu'elle allait à des cours de théâtre.
Elle a des cours de théâtre, j'étais amoureux d'elle. Et puis il y a plus de filles dans un cours de théâtre que dans un vestiaire de foot. Donc j'ai trouvé ça formidable. Un terrain de jeu incroyable.
Bon, alors vous qui avez un physique modelé dans l'argile de l'enfance et qui met Paris comme votre maison, jamais on ne vous a proposé, au début de votre carrière, d'incarner Gavroche ?
Non, 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 jamais.
C'est étonnant.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un personnage emblématique, c'est la figure tutélaire des gamins de Paris,
les plus beaux. Vous en avez la gouaille, la vivacité, vous en avez le feu.
Je sais pas si j'en ai le courage, hein. Lui il allait mourir sur les barricades Gavroche, je sais pas si j'en aurais fait autant.
Mais quand on incarne les personnages,
ah oui,
voilà,
oui.
Le courage,
il nous aide, il nous aide.
Ça infuse.
On les invoque et puis il nous aide à sauter par-dessus la barricade et à aller faire face aux bleus et à l'ennemi pour ramasser des cartouches.
Europe. On se balade cet après-midi en compagnie de Laurent Deutsch. C'est épatant, on le retrouve tout de suite.
Europe 1. Il est 15h28 et on retrouve Isabelle Morizet et Laurent Deutsch pour la suite de leur conversation sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Laurent Deutsch est le plus fascinant des historiens amateurs. Il nous attend jeudi sur France 2 à 21h en compagnie de Stéphane Bern pour faire ressurgir devant nous la ville de Paris sous la Révolution française. Laurent Deutsch, pour le grand public, votre érudition recouvre presque vos talents de comédien, car dans ce milieu auto-centré du showbiz, votre érudition détonne. Est-ce que parfois ça vous chagrine ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais moi j'ai pas la sensation de détonner. J'ai l'impression de faire le même métier que mes collègues acteurs, ou auteurs, ou scénaristes. C'est qu'on raconte des histoires.
Bien sûr, mais ma question était différente, parce que je voudrais savoir si votre image d'historien amateur, renforcée par vos gigantesques succès de librairie, Métronome, Hexagone, qui sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires, et le tout dernier romanesque sur l'histoire de la langue française est également un triomphe en librairie, est-ce que cette aura d'érudit, parce que c'est réellement en fait un constat, est-ce que ça n'a pas un tout petit peu brouillé votre carrière de jeune acteur victuose ?
C'est sûr que j'ai un souvenir assez marrant d'un acteur qui est devenu un des plus grands acteurs français aujourd'hui, qui est Jean Dujardin,
oui.
Avec qui on était amis à une époque, on se voyait un petit peu, et je me souviens qu'il m'a appelé un jour et il me dit « Ah, j'ai un scénario à te faire lire !» Moi,
oui.
J'étais content, je dis « Ah, je vais me faire un film avec Jean, on va se marrer !» Et en fait, il m'a demandé de lui donner des conseils. C'était un film sur un camisard du 18e siècle qui s'appelait Jean Cavaillé, qui est une grande figure des Cévennes, un camisard cévenol, donc a résisté aux dragonnades de Louis XIV. Et il m'avait demandé d'avoir simplement un retour critique, d'avoir son avis sur le... Et non pas un rôle, quoi. C'était pas un rôle, mais c'était plutôt un avis, un
voilà,
conseil.
Comme on demande à un historien.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, là, le regard, il a un petit peu changé sur moi.
Bon, les gens de cinéma sont pas du tout habitués à un profil comme le vôtre, Laurent Deutsch. On a le sentiment que, depuis quelques années, en fait, ils vous voient vraiment beaucoup comme un auteur à succès, peut-être un peu plus que comme un acteur. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous faites davantage de théâtre ?
Oui, enfin, ça, c'est aussi un choix personnel, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années maintenant, bah, j'ai des enfants, j'en ai trois. Et ce qui est le plus beau rôle d'ailleurs, et ça vous prend du temps, quoi. Donc les tournages qui nous emmènent pendant deux mois, trois mois à l'aventure dans une ville, dans un pays étranger, où c'est la facilité, on est bien, on s'occupe de nous, on est un petit peu les enfants sur un tournage, hein. On est coaché par une équipe qui prend extrêmement bien soin de vous. D'ailleurs, je rends hommage à tous les techniciens, les régisseurs, les assistants metteurs en scène qui nous couvent, qui nous maternent comme des mamans. Eh bien, quand on devient papa à son tour, eh bien, on a des responsabilités et on peut pas partir comme ça. On peut pas partir en colonie, en classe verte sur un tournage où c'est la fête. C'est vraiment un chouette voyage. Quand on a des responsabilités de papa,
donc,
pour rester à la maison.
C'est plus facile.
Bah, parce qu'on est sur place.
On est à Paris.
Ouais, c'est à Paris. On s'occupe des enfants, et puis une fois qu'ils sont couchés, bah, on va bosser.
Bon, alors, vous faites du théâtre, et dans le prolongement de vos ouvrages, né de votre passion pour l'histoire, vous faites de la télé, comme par exemple cette émission exceptionnelle que vous nous proposez jeudi prochain sur France 2, à 21h en compagnie de Stéphane Bern, et qui va nous permettre, je le rappelle, grâce à de la post-prod en 3D, de traverser le Paris de la Révolution française. Est-ce que vous arrivez encore à vous surprendre avec Stéphane Bern, parce que c'est pas du tout le premier numéro, vous connaissez bien. Est-ce que vous parvenez encore à vous surprendre quand vous rivalisez d'anecdotes en déambulant devant les caméras ?
Ouais, heureusement.
Vous improvisez beaucoup, chacun, pour peut-être déstabiliser un peu l'autre, c'est
oui,
le jeu.
Parce qu'il se trouve qu'on prépare quand même en amont le travail, donc
oui.
On se doute à peu près de quoi il va parler, sur quel sujet il va m'emmener, sur quel terrain il va aller. Et on essaye de quand même rajouter une petite carte qu'on a cachée dans la manche pour provoquer en lui une petite surprise, un papillonnement, voilà, une petite palpitation, genre « Oh là, là, il m'a chopé !» Ou alors, au contraire, un prolongement, un supplément d'âme où ça va lui éveiller quelque chose. Et Stéphane Bern, je dois dire, est très, très, très dur à piéger parce qu'il a une connaissance incroyable de l'histoire. Il a une culture générale de fou, une capacité de mémorisation,
donc,
il retient
même
tout.
Même vous ne parvenez pas à le piéger.
C'est très dur. J'ai pas dit que j'y parvenais pas. J'y arrive. C'est la deuxième émission.
Sur quoi, par
il m'a
exemple.
Fallu deux émissions pour
alors,
le choper.
Sur quoi l'avez-vous piégé cette fois-ci ?
Sur quoi je l'ai chopé ?
Oui.
Alors, j'ai le souvenir, le premier souvenir où je l'ai piégé, c'est quand je lui ai parlé de la maman de la Tour Eiffel. Il comprenait pas. Il me dit : mais c'est quoi la maman de la Tour Eiffel ? En fait, c'est la cheminée qui est juste à côté. Quand vous visitez la Tour Eiffel, vous avez une cheminée de 20 mètres de haut, qui est cachée dans des arbres aujourd'hui. Et en fait, c'était la cheminée du four où on faisait chauffer les rivets, les vérins pour fixer, pour assembler le mécano géant qu'a été la Tour Eiffel. Et donc, je lui disais : bah, tu vois, cette cheminée, elle date de 1888, 9 mois avant la Tour Eiffel. Donc, c'est vraiment elle qui a créé et enfanté la Tour Eiffel. Il ignorait cette petite anecdote. Voilà, c'est le genre d'anecdote comme ça en passant où là j'ai réussi à le piéger. Mais c'est dur, c'est très très dur.
C'est très dur. Bon, est-ce que ces émissions conçues pour France Télévisions sont traduites et vendues à l'étranger ?
Ça, je sais pas du tout. Alors là, vous me piégez.
Mais parce que on a tellement de touristes qui des quatre coins du monde viennent sillonner la France. On a tant de monuments, tant d'édifices. J'imagine qu'ils sont curieux de notre histoire.
Et je pense qu'ils seraient très friands
sur leur chaîne de télé.
Je reviens d'un séjour de 3 semaines en Asie où je propose 2 spectacles, un sur la langue française et un sur Paris, où je raconte une promenade de Paris au fil de l'eau. Et
qui est le prolongement en fait de votre
métronome.
Dernier...
Oui. Paris au fil de l'eau, c'est le prolongement de métronome. Et sur la langue française, oui, c'est la mise en place de mon spectacle que je vais créer à Paris à la rentrée, mais que j'ai été rodé comme ça en Asie pendant ces 3 semaines. Je l'ai joué une dizaine de fois. Et quand on parle de Paris, tout de suite, les gens ont les yeux qui scintillent. On habite un bijou. C'est vraiment un pays rassembleur. Ce qui est impressionnant quand vous êtes en Asie, que vous soyez à Kuala Lumpur, à Séoul, à Saïgon, au Chimine, à Tokyo, vous allez voir une Tour Eiffel quelque part. C'est immanquable. Vous pouvez pas ne pas cocher la case Tour Eiffel où vous soyez dans le monde, en tout cas en Asie. Donc ils sont dingues de Paris, ils sont amoureux et friands de Paris. Donc c'est sûr que cette émission là, si vous la vendez en Asie, elle va trouver preneur très très vite. Et tant mieux, et continuons à faire cette passerelle pour donner envie. Paris, ça sera toujours Paris.
Mais alors quand vous prolongez sur scène en Asie donc vos ouvrages historiques, vous parlez en français aux expatriés.
Je parle non à tout le monde parce que c'est traduit.
C'est traduit
simultanément en anglais et avec quelqu'un, un interprète qui traduit de manière simultanée. J'ai la chance, par exemple, quand je vais à Hong Kong pour le cantonais, pour le chinois, d'avoir une copine qui habite en France, qui est Sonny Chan, qui travaille d'ailleurs à la radio et qui vient avec moi. Elle se met sur scène et elle traduit et on fait quelque chose de concert. Et j'essaie de trouver cette espèce d'accouplement purement scénaristique et scénique, hein, je vous rassure, pour que ce soit vraiment interactif avec le public et pas simplement le public qui doit lire une bande rythmo ou des sous-titres. J'essaie de faire quelque chose de vivant.
Vous êtes notre ambassadeur officiel. officieux, ambassadeur de France officieux.
Exactement, et je m'en rengorge. Et pour l'instant, c'est satisfaisant. Regardez un petit peu les taux de fréquentation et de tourisme, on explose. Hein, je suis en train de repeupler le Maine-et-Loire.
Alors, en plus, ça n'est pas tout, parce que vous, effectivement, vous sillonnez l'Asie, mais vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, Laurent Deutsch.
Ah oui.
Vous avez vos propres chroniques historiques, baptisées « À toute berzingue », qui, en 5 minutes chrono, nous racontent l'histoire inattendue de nos grandes villes.
Oui.
Ça prend du temps de faire ça.
À fond la caisse en courant en 5 minutes. Livrez chez vous plus vite que la redoute.
D'accord, mais pour tout façonner en amont, vous travaillez avec une équipe, vous écrivez seul?
Non, je suis tout seul pour faire ça. Mais j'essaie de faire des choses très légères, très digestes, parce que les réseaux sociaux, je leur ai toujours tourné le dos, j'ai jamais été là-dessus. Il faut y être aujourd'hui. Voilà, faut être sur les réseaux sociaux.
Mais vous y êtes d'une façon didactique.
Et surtout avec un contenu. J'allais pas me prendre en photo en train de boire une coupe de champagne sur une plage, quoi. J'essayais de trouver un contenu. Je vais pas faire un journal intime. On parle suffisamment de moi, quoi. J'en peux plus de m'entendre. Donc, il fallait que je trouve une idée pour raconter quelque chose. Et j'ai voulu prouver aux gens où qu'ils habitent en France qu'il y a des trésors à portée de main, accessibles gratuitement. Donc, par exemple, là, récemment, j'étais à Arras. Et j'ai eu envie de dire aux gens, bah voilà, pourquoi Arras? Comment c'est né? Qui l'a constitué? Qui l'a fabriqué? Pourquoi? Quels en sont les plus beaux vestiges? Quels en sont les trésors encore insoupçonnés ou un peu oubliés? D'où vient ce nom d'Arras? D'où ça vient? Et quand on s'y intéresse un peu, on se rend compte qu'il y a un des personnages les plus importants de notre histoire qui habitait Arras, qui va coloniser en premier l'Angleterre. Il va préparer la conquête de l'Angleterre pour les Romains. Il s'appelait Commios l'Atrébat. Atrébat, c'était la tribu des Gaulois d'Arras, et Arras vient de ce nom gaulois, Atrébat. Et Commios, renseignez-vous sur Commios, il est plus célèbre que Vercingétorix.
Non, mais vous me fascinez. Attendez, voilà, est-ce que vos enfants
une portée, tout d'un
hérité...
coup, quoi. On voyage beaucoup plus que simplement la citadelle Vauban. C'est très sympa la citadelle Vauban, mais il y a d'autres choses.
Commios, l'Atrébat. Laurent Deutsch, est-ce que vos enfants ont hérité de votre curiosité?
Oui, ils sont curieux. Ouais. J'ai ma petite, ma seconde, ma cadette, qui veut être archéologue. Et mon dernier qui veut être tennisman. Donc ça, lui, je sais pas s'il est de moi. Le tennis, je comprends pas. J'ai jamais eu le tennis de ma vie, mais bon, voilà, lui, il veut faire tennisman. Mais j'ai ma deuxième qui veut être archéologue.
Alors,
et ma première veut être danseuse.
Est-ce que vous
et
êtes
je suis
capable,
un très bon danseur.
Est-ce que vous êtes capable, en fait, d'être un virtuose de la concision? Parce que, juste en ultime question, avant une pause, j'aimerais bien savoir si... Bon, la France, elle se compose de 70 millions d'habitants, mais on va dire aussi qu'elle est composée des 3 milliards de morts qui l'ont bâtie, n'est-ce pas? Alors, rien n'est figé, tout est mouvant. Pour vous, c'est quoi l'identité française?
C'est la langue. C'est la langue. C'est la langue qu'on parle. La langue qu'on parle, dès que vous parlez, vous convoquez un ancêtre. Les mots, c'est des monuments dans nos bouches. C'est notre ADN qui se déroule dans nos palais. Parce que c'est quoi être français? C'est la religion, c'est pas la religion. Et d'être français qui n'ont pas la même religion, il y en a qui n'en ont pas. C'est la couleur de la peau, il y a qu'à regarder une photo de l'équipe de France de football, alors on verra que c'est pas la couleur de la peau. Ou alors faut renoncer aux deux étoiles sur le maillot, et moi j'en ai pas envie. C'est le fait d'être né en France, il y a des tas de français qui sont pas nés en France, l'exemple de mon père. C'est le fait de vivre en France, il y a des tas de français qui vivent pas en France. C'est quoi être français? Eh ben c'est notre langue. La langue, c'est ce qui raconte le mieux les voyages, les aventures, les rencontres, les métissages d'un peuple. Et ce mot identité qui aujourd'hui fait peur à tout le monde, comme quelque chose de nauséabond, de replié. Ah, l'identité, c'est caca, c'est raciste et tout ce comme. Non, pas du tout. L'identité française, c'est au contraire quelque chose de très généreux, de très ouvert. C'est la langue qu'on parle. Ça va au plus intime de nous-mêmes. Parce que pour commencer à s'exprimer, pour parler, pour ressentir des émotions, même avant de les communiquer à quelqu'un d'autre, hein, de dialoguer, quand vous commencez à vous dire tiens, j'ai faim, j'ai soif, j'aime pas, c'est déjà des mots, ça. Et ces mots, ils nous viennent de l'extérieur, ils nous viennent déjà d'un collectif, de quelque chose qui nous dépasse, qui nous a déterminés, nos ancêtres. Parce que la langue qu'on emploie, elle est romaine, latine, celte, gauloise, arabe, espagnole, germanique, tzigane, gitane, de partout, c'est bien partout. C'est ça les Français, c'est dans nos bouches. Europe.
Il est formidable, Laurent Deutsch. J'ai encore 1000 questions à lui poser, alors on le retrouve tout de suite après cette pause.
Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Isabelle Morizet reçoit cet après-midi le comédien et passionné d'histoire, Laurent Deutsch.
Laurent Deutsch, le 15 avril dernier, le monde entier effaré a regardé incrédule et épouvanté l'effroyable spectacle de Notre-Dame dévorée par les flammes. Notre-Dame, l'épicentre de notre histoire. Notre-Dame dont la première pierre fut posée en 1163. Alors, vous étiez où? Vous avez fait quoi ce soir-là? Vous vous êtes rendu, comme beaucoup de Parisiens et de touristes, sur les quais pour pleurer sous une pluie de cendres?
Ouais, je suis allé au chevet de Notre-Dame comme des milliers de Parisiens. Totalement incrédule, se disant que Voltaire avait raison, quoi. Enfin, au contraire, il avait tort quand il disait qu'il n'y a que les montagnes qui bougent pas. Bah si, tout bouge et tout peut partir, tout peut s'envoler, y compris Notre-Dame, qui, comme vous l'avez dit très justement, c'est l'épicentre de notre âme, c'est notre lien ancestral entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que c'est depuis les Gaulois qui sont installés à Paris au 3e siècle avant notre ère, avaient déjà installé sur l'île de la Cité un temple religieux pour leur dieu gaulois. Puis ensuite, les Romains, les Gallo-Romains vont y mettre le premier temple, le panthéon des divinités latines, avant que ce soit donc les catholiques qui construisent une église qui, avant d'être Notre-Dame, s'appelait la basilique Saint-Étienne,
ouais.
construite par le fils de Clovis qui s'appelait Childebert. Donc ça date les années de zéro de Paris. Paris est né avec, sur la partie orientale de la cité, un temple religieux, un temple céleste qui fait le lien entre la vie et la mort. Quoi.
Et puis, oui, religieux, mais que l'on soit croyant ou non, en fait, Notre-Dame, c'est la promesse
spirituelle,
de l'éternité.
Au-delà,
c'est la transcendance. Oui. En fait, sa flèche, elle désignait l'infini.
Exactement. C'est un peu comme les muakas de Calédonie, vous savez, les poteaux, les totems. C'est notre premier totem, c'est notre lien, c'est la lignée, quoi. C'est les premières questions qu'on se pose après la mort, etc. Donc autrefois, évidemment, on croyait en des choses, on était un peu effrayés, donc on espérait une métaphysique. C'est la métaphysique, ce qui est au-delà du physique, au-delà de notre réalité, est personnifié à Paris par Notre-Dame. Et c'est vrai que de voir ça partir en fumée, c'est beaucoup d'illusions qui s'envolent.
Et puis Victor Hugo, avec le roman qu'il a écrit à l'âge de seulement 29 ans, a mondialisé le culte de Notre-Dame.
Il a surtout lancé la mode vraiment de la conservation du patrimoine, puisqu'il faut savoir que c'est après la publication de Notre-Dame de Paris en 1831 qu'il va gagner la bataille de l'opinion publique pour s'intéresser aux vieilles pierres du passé, avec l'élan romantique, etc. Je me souviens d'une phrase en 1825 de Victor Hugo qui était « Chaque jour, quelques souvenirs de la France s'en va avec la pierre sur laquelle il était écrit ». Ouais. C'est-à-dire que les souvenirs de notre passé sont nos monuments historiques, ce sont des vestiges de pierre qui racontent mieux qu'un livre notre histoire et l'aventure de notre pays. Et grâce à Notre-Dame, en 1837, va être créée la première commission historique de conservation du patrimoine qui avait pour but de veiller, surveiller, protéger et si possible restaurer dans le style original les monuments de notre histoire. Auparavant, on s'en foutait du patrimoine et de la conservation. Stéphane Bern n'était pas encore né, quoi. À l'époque de Napoléon, quand il est sacré en 1804 à Notre-Dame, on s'en fout de Notre-Dame. Si elle est abîmée, il n'y a qu'à la foutre par terre. En plumeur.
Laurent Deutsch.
Il faudra attendre Notre-Dame et Victor Hugo.
Avec cet incendie absolument effroyable du 15 avril dernier, selon vous, est-ce que la physionomie de Paris va changer ?
Je sais pas, c'est trop tôt pour y penser, mais surtout ce qui est inquiétant, c'est qu'au début, je me suis rassuré à dire, elle a perdu son chapeau, c'est pas grave, elle est décoiffée, mais on va la recoiffer très vite.
Non, mais on ne sait pas du tout.
Le problème, c'est que c'est une architecture gothique.
Voilà, et si, en fait, les enceintes, n'est-ce pas, vont résister.
Ouais, parce que le principe de l'architecture gothique, c'est que les murs sont pas construits en plein, comme avec l'architecture romane qui la précède, mais c'est des piliers.
S'opposant les unes aux autres.
Et qui se rejoignent en hauteur par des nervures et par les fameuses clés de voûte.
C'est ça.
Et là, il y a quand même trois voûtes concédées, donc ça veut dire que ça a libéré des forces. Sur les côtés, sur les murs, ces forces qui sont maintenant libres, un petit peu abandonnées à elles-mêmes, etc. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, que vont faire les murs ? Est-ce qu'ils vont rester stables ou est-ce qu'ils vont être petit à petit attirés d'un côté ou de l'autre, penchés d'un côté ou de l'autre et finalement tomber ? Il y a un combat à gagner contre la montre et espérons que Notre-Dame le gagnera.
Alors, 15 millions de visiteurs venaient chaque année de tous les coins de la planète. Et puis, les touristes, croyants ou pas, venaient chercher là un petit peu d'élévation, un peu de transcendance. Donc, la démarche, même en tour opérateur, étaient vécus de manière bien différente, bien sûr, de celle qui les amène, par exemple, à s'émerveiller devant la Tour Eiffel. Paris sans Notre-Dame, c'est pas exactement Paris. Qu'est-ce que vous allez dire à ces millions de touristes qui, dans les années qui viennent, vont continuer de venir à Paris ?
Oui, puis je crois peut-être qu'ils la regarderont autrement. Peut-être qu'ils se rendront compte que c'est pas qu'un vaisseau vide. Et que tout d'un coup, quand elle s'est mise à brûler, y a eu des milliers de cœurs qui ont saigné, qui ont souffert, des milliers de larmes qui ont coulé. Et elle a retrouvé son statut patrimoniale, tutélaire, elle est fragile, quoi. Ça la rend incroyablement humaine et on a envie de la serrer dans ses bras. On a envie de la serrer dans ses bras, Notre-Dame, aujourd'hui. Il y a rien de plus beau que ça. Et puis, n'oublions pas quand même que dans ce malheur, il n'y a eu aucune victime. Il y a eu un blessé grave, je crois, mais il n'y a pas eu de victime. Donc, ça aurait pu se passer pendant un office, pendant une visite, ça aurait pu être dramatique, ça aurait pu être effroyable. Et peut-être que les mânes de Notre-Dame et de nos ancêtres, de nos aïeux qui veillent sur elle, ont veillé sur nous en nous épargnant un bilan humain qui aurait pu être catastrophique.
Bien évidemment. Et en épargnant aussi de sacrés trésors. Parce que la couronne d'épines de Jésus-Christ, ainsi que l'un des clous de la crucifixion et un morceau de la croix, de la véritable croix, ont été miraculeusement sauvés. Et j'ai appris que
si on assemblait tous les morceaux de véritable de la croix qu'on suppose
on aurait beaucoup de croix fausses, on pourrait
aller jusqu'à Istanbul.
En tout cas, j'ai appris que le coq en or qui surmontait la flèche de la cathédrale,
oui, le cardinal Verrier,
il servait en fait de, je trouve l'expression absolument magnifique, de paratonnerre spirituel, puisqu'on avait glissé à l'intérieur sur une des 70 épines de la couronne du Christ. Donc les symboles sont partout, Laurent Deutsch.
Et des vestiges l'histoire aussi de Saint-Denis.
Une
côtelette de Saint-Denis et de Sainte-Geneviève, les patrons de Paris.
Mais ça veut dire que l'histoire des hommes, des pays, des civilisations, en fait, est truffée de symboles. Et pas seulement les religions.
Non, bien sûr, on en a besoin. Et c'est vrai que c'est aussi un épicentre. Cette flèche qui tombe, là, quand ils ont commencé à faire les analyses GPS avec les outils modernes, il y a quelques années, on a toujours dit que le point zéro des routes de France, c'était devant le parvis. Vous savez, il y a une espèce de rosace où vous avez des Russes là, qui adorent ça et ils se mettent à tous à tourner autour et ils lâchent 2 euros. Enfin, je sais pas, c'est un espèce de truc expiatoire, là, un peu comme s'ils plumaient un poulet. Ils se mettent devant et c'est le point zéro des routes de France. Eh bien, on vient de se rendre compte avec la technologie moderne et les données radar et satellites qu'en fait, le point zéro des routes de France, c'est précisément la flèche.
C'est de là que tout est parti.
Ouais. Et donc, c'est vrai que ça a une importance hallucinante puisque c'est vraiment le point zéro de toutes les routes nationales qui nous relient les Français et qui même nous relient bien au-delà puisque les autoroutes, tout part de Paris.
On fait une pause, on médite, on retrouve tout de suite Laurent Deutsch.
Il est 15h50, vous êtes bien sur Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin. Laurent Deutsch, le comédien et passionné d'histoire, est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi.
Laurent Deutsch, avec Romanesque, la folle aventure de la langue française, qui est parue il y a peu chez Michel Lafon, vous signez à nouveau un triomphe en librairie, ce qui signifie que les Français sont aussi curieux que vous pouvez l'être. Et effectivement, la langue française, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était l'identité réelle de ce peuple, et c'est un grand roman d'aventure, l'histoire de la langue. Longtemps, le français a été, par exemple, la première des langues. Au Moyen-Âge, Marco Polo racontait ses voyages en français.
Ouais.
On parlait français à la cour de Catherine de Russie. Et puis, la monarchie anglaise a toujours, aujourd'hui, et ça, c'est incroyable, elle a toujours pour devise ces mots français, Dieu est mon droit. Même l'ordre de la Jarretière, on y soit qui mal y pense, d'ailleurs. C'est une phrase française,
exactement.
C'est incroyable.
Ouais.
Pourtant, la révolution industrielle a considérablement affaibli le français et partout dans le monde, aujourd'hui, c'est l'anglais qui domine. Est-ce que notre langue, allez, soyons un peu pessimistes, est-ce qu'elle pourrait être appelée à disparaître ?
Pas du tout. Elle est beaucoup plus forte que nous. Mais on n'est pas un empire dans un empire. Le français triomphera de nous et d'ailleurs de toutes nos craintes et de toutes nos peurs. C'est vrai que aujourd'hui, j'entends des gens qui disent, ouais, qui sont pessimistes, qui disent, vous intéressez à la langue française quand même. Aujourd'hui, les mômes, ils ne s'expriment plus qu'avec 400 mots. Rassurez-vous, ils en comprennent beaucoup plus, déjà. Et moi, je trouve que ok, peut-être qu'on perd du fond, parce qu'on est dans une époque frénétique aujourd'hui, on est au 21e siècle.
On est
après
à l'époque
le siècle
du zapping.
Des médias, on est au siècle de l'immédiat, du tout, de suite. Donc jusque dans les phrases, jusque dans les mots, il faut aller vite.
On est à l'époque de l'image.
Ouais, donc, et du son. Donc les mots deviennent des sons, des tempos, des musiques. Autrefois, pour dire comment ça va, on disait comment ça va. Aujourd'hui, on dit wesh. Autrefois, pour dire qu'on trouvait quelque chose de drôle, on disait tiens, je trouve que ça, c'est plutôt drôle. Maintenant, on dit lol. Quand on disait on était mort de rire, tiens, je suis mort de rire. Maintenant, on dit MDR. Mais c'est une
mais
manière
la réduction
aussi...
est abominable.
Elle est abominable, mais elle regroupe du punch.
Plus de relief.
Ouais, mais si. La nuance, d'accord, mais par contre, si, du relief, on en retrouve. On retrouve de l'accent, on retrouve de la tonicité. La langue, elle est plus sonnante, elle est plus vibrante.
Je parle du relief, pas pour la forme, mais pour le fond.
Oui, moi, je suis d'accord avec vous. Le fond, on perd du fond. Mais il faut faire confiance à la langue française. C'est-à-dire qu'elle est comme un accordéon. Par moments, elle se dilate. Elle se répand, elle s'ouvre, alors on s'enrichit de tout ce qu'on veut, les doublets de la latinité aussi, il faut parler de l'influence latine.
La 80% France... de la langue française.
Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réussi à vraiment s'affranchir de la tutelle du latin, qui est une espèce de prestige comme ça, qui est sur un piédestal. Et au XVIe siècle, pendant la Renaissance, la langue française va se doubler dans son vocabulaire de mots latins. Elle va se dédoubler avec les fameux synonymes, ce qu'on appelait les doublets. Ouais. Et aujourd'hui, ils existent ces doublets. Ils sont plus Made in Latin, mais ils sont Made in Argot, Made in Verlan. Regardez l'argent. Aujourd'hui, l'argent, la thune, la maille, les fifrelins, le flouze, le genre. Et ben voilà, c'est des doublets. Ça s'enrichit. Alors oui, ça peut paraître un peu un vocabulaire argotique, populaire, limite un peu familier, mais c'est des mots. Et peut-être que dans un siècle, ça sera des mots prestigieux, des mots snobs. On ne sait jamais.
Pour le comédien que vous êtes, Laurent Deutsch, est-ce que la langue française est un outil particulier? Elle est sculptée d'une manière particulière. Elle est très, très nuancée. Elle a ses conjugaisons. Elle est plus subtile que l'anglais, par exemple. Vous pensez que jouer Molière ou Rostand par rapport à jouer Shakespeare dans le texte?
Je sais pas, je suis pas un linguiste. Moi, je constate juste que la langue française suit un mouvement qui a toujours été le sien, qui a été de tenir compte de l'usage. Une langue n'existe que si on s'en sert. Ça, c'est pas moi qui parle, c'est l'Académie française. C'est le peuple qui fait sa langue en fonction de ses besoins. Donc, ça peut tantôt être le bon usage de Malherbe, qui était le taux d'utilisation du mot, la quantité qui fait foi. Par moments, ça peut être le bel usage, donc l'élitisme, quelque chose de plus ourlé, de plus savoureux. La langue plutôt parlée par Louis XIV que dans les cours de ferme. Ça, c'est le bel usage de Vaugelas. En tout cas, la langue française fait son miel de tout ça. Et ce qui importe, c'est d'être compris. C'est un outil, la langue française. Donc après, oui, elle peut se structurer et devenir prestigieuse. prestigieuse, désirée, peut-être un peu par moments exagérée. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Les Précieuses Ridicules, Molière, quand il fait parler Catos, qui demande à quelqu'un de s'asseoir et il se perd en circonvolution ridicule, quand il dit « Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure, contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. » Bref, c'est vrai que c'est un peu tarte à la crème, mais c'est plus sympa que pose ton cul. Mais bref, la langue française, elle est un peu double, elle est un peu comme ça, mais elle est aussi beaucoup plus simple. Et, ouais. et elle navigue tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre. Et comme ouais. je le disais tout à l'heure, c'est un accordéon qui lui va si bien. De temps en temps, elle se répand, elle se dilate, c'est un petit peu trop exagéré, comme un peintre qui surcharge trop le tableau. Et par moments, ça se contracte. Vous savez, quand un accordéon, il se contracte.
En tout cas, on sent que vous aimez l'utiliser.
Ah, j'adore, ça retrouve du punch, de la pêche. Quoi. Faites confiance à la langue française. Elle n'est pas en train de se défaire, elle continue à se faire. Le français, c'était pas mieux avant. Le français, c'est encore mieux qu'avant. C'est vivant, c'est dynamique. Et croyez-moi, c'est pas prêt de mourir.
Et que tous les dieux vous entendent. Alors, Laurent Deutsch,
oui.
vous montez sur scène donc en ce moment pour prolonger l'aventure du livre que vous avez consacré à l'histoire de la langue française et qui est paru chez Michel Lafon. Mais j'ai appris que très bientôt, vous iriez également voir les écoliers en compagnie du grand lexicologue Alain Rey.
Oui.
On
travaille de concert. J'étais très heureux parce que c'est vrai que c'est quand même Monsieur Langue Française, Alain Rey, hein, qui est quand même le directeur du Robert, etc. C'est vraiment lui qui fait la pluie et le beau temps avec la langue française. Et il a bien aimé mon travail. Et donc on s'est rencontrés. Et
vous dites ça comme un élève.
Ah bah oui, parce que je suis très discipliné. Je viens du foot, moi. Donc j'étais très heureux de recevoir des signaux affectueux et amicaux de sa part en me disant bah t'as bien fait de t'intéresser à ce sujet-là parce que tu le défends bien, c'est gourmand. Par moment, évidemment, il y a peut-être des nuances à apporter. Il faut peut-être un petit peu préciser des choses. Mais il me dit ça sera mon rôle et donc on va peut-être faire quelque chose ensemble.
Bon, en fait, vous êtes l'héritier de Rabelais, prônant le gai savoir avec une curiosité gourmande, jubilatoire. Pourquoi n'analysez-vous jamais l'époque contemporaine ?
Alors, en tant que passionné d'histoire, c'est difficile de s'intéresser à l'époque contemporaine pour moi, parce qu'il y a encore
pas assez de recul.
Ouais, il y a encore des victimes et des bourreaux. Moi, c'est pour ça que j'ai aucun mal à parler de Robespierre et de Louis XVI, parce que je m'en sers pas d'un instrument politique pour défendre, pour accabler, pour accuser. Je me fais pas procureur général. Et ne pas être procureur général, c'est difficile dans des époques récentes où vous vous retrouvez avec des gens qui ont souffert. Moi, j'ai mes grands-parents qui ont été déportés. J'ai du mal à m'intéresser à l'occupation et à la France des années 40. J'ai du mal. Voilà, j'ai du mal parce que c'est quelque chose qui me touche. Ça éveille en moi quelque chose qui n'est plus plaisir, mais qui devient de la tristesse, une espèce d'affection, alors que l'histoire, pour moi, doit être heureuse. Alors oui, je suis peut-être un peu candide, un peu naïf, mais moi, je veux m'amuser et me divertir et rassembler avec l'histoire, et surtout pas diviser ou cliver les gens.
Moi, l'histoire doit nous rassembler. Ouais. Jeudi prochain, à 21h, sur France 2, en compagnie de Stéphane Bern. Voilà, puisque vous allez nous embarquer dans le plus intense des voyages. On va en fait se téléporter, grâce à vous, dans le Paris de la Révolution française, qui surgira sous nos yeux, en réalité augmentée, en 3D. L'émission a pour titre « Suivez le guide ». Et déjà aujourd'hui, hein, vous avez été un guide absolument éblouissant.
Ah, merci,
hein,
écoutez, merci Isabelle. Et continuez, hein, n'hésitez pas donc à me retrouver sur les réseaux sociaux. Quoi. À toute Bersac.
Oui.
Et sur Instagram, Laurent Deutsch officiel.
Sur Instagram,
et rassurez-vous, je parle
officiel.
Beaucoup moins vite sur les réseaux.
Cher Laurent, je vous embrasse.
Merci
à
Isabelle.
Très vite.
Merci à vous.